Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Marie-Claude qui vous accueille sur ces ondes, sur les ondes de FM+, et dans le cadre les échos de la solidarité internationale. Et aujourd'hui, donc, je vais avoir des invités qui vont nous entretenir sur l'actualité brûlante de l'Iran, qui, je pense, touche beaucoup de monde. Et avant de vous les présenter, je vais d'abord vous faire un bref petit récapitulatif donc, de l'Iran, qui est ce grand pays multimillénaire, d'une culture multimillénaire, qui s'appelait la Perse, c'était l'Empire Perse, et qui, en 637, a été envahi, je vais dire comme ça, par les Arabes, donc le Oumar, le prophète, et donc qui a été à ce moment-là, comme toutes ces régions du globe, a été envahi donc à des buts aussi religieux. Hein, il n'y a pas que les chrétiens avec les croisades, il y a aussi les islamistes. Et donc ce que je voulais dire par rapport à ce pays, pour que peut-être on comprenne mieux aussi l'importance de tout ce qui se joue actuellement, c'est que c'est un pays qui n'a jamais été arabisé, contrairement aux pays aux autres pays voisins qui ont eux-mêmes été islamisés, tous les pays alentours. Et c'est aussi un pays qui, comme la Turquie pour d'autres raisons, mais qui a conservé sa langue, qui est donc le perse, le farsi, comme on dit, qui a lutté et qui a résisté pour conserver sa langue. Donc, pour dire déjà que voilà. Alors ensuite, quand on avance dans l'histoire, puisque là, on était au 7e siècle, on arrive donc au début du 20e siècle, et avec donc le Reza Shah Pahlavi, qui, à la suite d'un coup d'État, avait pris le pouvoir. Et pour continuer dans l'idée quand même de l'esprit de ce pays, le Shah Pahlavi avait voulu moderniser son pays à l'image d'Atatürk, qui, je pense, était d'ailleurs un copain à lui, enfin, je ne sais pas. Oui, je pense qu'ils se connaissaient bien. Et à ce moment-là, il avait pris des mesures pour l'interdiction du voile. Alors, vous voyez, voilà. Vous voyez ce que ça donne, hein ? Donc ça, c'était en 1910, interdiction du voile et obligation pour les hommes de porter des costumes, des tenues européennes. Voilà. Et puis aussi, il avait à ce moment-là prôné la neutralité de l'État, c'est-à-dire justement par rapport à la religion. Voilà, je pense que dans tout ça, mon invité n'était sûrement pas né, mais pour dire quand même que ce pays-là était... Voilà. Ensuite, il y a eu Reza Shah, bien connu, puisque lui, les médias couvraient déjà très bien, c'était un homme de médias, le fils de Reza Shah Pahlavi. Et à ce moment-là, qui a défrayé la chronique avec sa première épouse, Soraya, et puis ensuite avec sa seconde épouse, Faradiba. Et comme je pense qu'il y avait une très mauvaise gestion économique du pays, il y a eu à ce moment-là beaucoup de soulèvements, beaucoup d'émeutes. Ça a duré quand même quelques années, je pense. Et en janvier 1979, Reza Shah Pahlavi a quitté l'Iran avec Faradiba. Et c'était en janvier, et en février 1979, après 15 ans d'exil en France, l'ayatollah Khomeini est arrivé en Iran sous les acclamations d'une partie du peuple qui effectivement avait chassé le Shah, avec des promesses de conserver justement une liberté individuelle, etc., et de conserver les acquis, en tout cas sociaux et culturels de ce pays. Malheureusement, très rapidement, au bout de quelques mois, il a renoncé à tout ça. Il est passé de l'autre côté. Et il a proclamé la République islamique avec tout ce que nous savons, nous, de cette histoire-là, c'est-à-dire toute la dureté de ce régime, et notamment concernant les femmes, hein, comme dans beaucoup de coins de ce monde-là. Et vraiment, ça a été une grosse déception pour le peuple, pour une grande partie du peuple. Voilà, les autres restant effectivement traditionnellement très religieux, mais bon, c'est pas l'ensemble du pays. Donc ce pays a avancé tant bien que mal, Et il y a quelque temps, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce qu'il y avait eu déjà des grandes manifestations avec où beaucoup d'étudiants, il y a 2 ou 3 ans, je crois, où beaucoup d'étudiants avaient été emprisonnés, où il y a eu des morts, etc. Ça a été assez violent, assez sanglant. Bon, un semblant de calme était revenu, mais avec des problèmes qui s'empilaient. Et donc récemment, une jeune iranienne d'origine kurde a été morte, visiblement assassinée. Elle s'appelait Mahsa Amini, et à partir de là, ça a été vraiment l'explosion. Voilà, l'explosion qui continue, puisque bon, il y a une actualité dont nous allons nous entretenir maintenant. Et donc, je reçois à ce micro Nyusha Mahsadi. Donc, bonjour Nyusha. Et Nyusha, qui est une très bonne tribune, qui sait très bien tenir une tribune. Si vous allez aux manifestations du samedi des Iraniens, vous verrez qu'elle fait bien sa part de job, comme on dit. Et donc, bonjour Nyusha. Et voilà, j'aimerais que vous nous entreteniez un peu, que vous expliquiez un peu déjà tous les événements, parce qu'il n'y a pas eu que Mahsa, malheureusement. Il n'y a pas eu que Mahsa. Donc, il y a eu d'autres morts, mais celle-là a été celle vraiment la plus symbolique.
Mais bonjour tout le monde, merci beaucoup de m'avoir invité ici. Oui, comme vous avez dit, je vais déjà aussi vous confirmer, et ce combat pour la liberté, ça a commencé depuis, on peut dire, 2100. Et puis voilà, chaque fois, avec des coups d'État, surtout avec l'aide des États-Unis, et puis Angleterre aussi, pareil. Aujourd'hui, on se trouve dans cette situation actuelle. Bien sûr, ça n'a pas commencé, je peux dire que ça n'a pas commencé avec la mort de Mahsa Amini, mais ça a déclenché le mouvement révolutionnaire, on peut dire ça. Parce que comme vous avez dit, depuis que je me souviens, depuis même que je suis née, il y avait toujours des manifestations. Oui. Surtout quand j'avais 16 ans, il y avait le mouvement vert avec l'élection qu'ils avaient corrompue et tout ça. Ça par exemple, je me souviens, on était 4 ou 5 millions manifestants à Téhéran. Mais bon, avec le silence du monde et les médias, comme presque toujours, ça a été étouffé. Parce que le régime d'Iran, il a tout. Il a tous les moyens pour réprimer, pour tuer, pour massacrer. Et tout l'argent du peuple et des autres pays qu'on l'aide, ça va pas du tout pour la santé ou pour l'éducation, mais ça va toujours et directement dans leur poche pour pouvoir nous tuer. Et avec la mort de Mahsa Amini, une femme... Et une femme kurde, c'est-à-dire une représentante de minorités discriminées dans cette société et par l'État, et aussi par les gens qui aiment bien réprimer la liberté des autres. Parce que vous savez, quand la loi est corrompue, quand la personne qui doit agir et qui doit garder, en fait, respecter la loi, et qui met la loi, lui-même, il est corrompu, du coup, on ne peut attendre rien de la loi et de sa protection. Du coup, avec la mort de Mahsa, ça a commencé. Et bien sûr que le régime aussi, il ne baisse pas du tout les bras, il utilise tous ses moyens, comme ses propagandes, ses médias, ses armes, déjà. Ils ont tué, par exemple, cette jeune fille de 17 ans, Nika Shakarami. Elle était déjà une lycéenne. Mm-hmm. Elle était dans les manifestations. Il y a des vidéos d'elle qui étaient dans les manifestations. On l'a tuée. On ne sait pas comment, parce que rien n'est clair dans cette affaire, comme toujours. Comme il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours même, on a trouvé des os d'un des manifestants qu'on a capturé il y a un an. On l'attendait dans la prison, mais on a trouvé ses os dans les montagnes, à Shiraz. Du coup, c'est-à-dire que tant qu'on fait le silence et on n'agit pas, et il tue, tout simplement, comme toujours. Et cette fois, heureusement, le monde nous entend plus que les autres fois. Et c'est très important qu'on agisse, et même radicalement. Pourquoi pas radical, c'est-à-dire crier fort, demander. Moi, je demande à tout le monde, surtout aux Français, parce que j'habite ici. Et pour moi, la France, c'est vraiment mon deuxième pays, vous voyez. J'ai tout essayé pour connaître la culture française, la littérature française,
la langue française. Que vous parlez merveilleusement bien.
Avec la joie, je le fais, vous voyez. Et du coup, je leur demande, en tant que mes amis, en tant mon peuple, mon deuxième peuple, d'être la voix des gens qui cherchent, qui revendiquent la liberté depuis longtemps. On a payé trop cher. On va payer trop cher. Parce que, c'est, voilà, je dis toujours, pour avoir la liberté, il faut trop payer et payer cher. On le paye avec d'autres sangs. Mais il faut être vigile par rapport aux propagandes des crises mondiales aussi. Vous voyez, des trucs de politique qui manigancent toujours contre la liberté des peuples, avec le carburant, avec le pétrole, avec... c'est le capital, quoi. On habite, en tout cas, dans un système capitaliste. Qui aide beaucoup à réprimer la liberté des hommes, voilà. Pour l'instant, oui, en Soba, il y avait plein de morts. Il y avait cet horrible accident, incendie à le prison Evin. Le prison Evin, pour nous, c'est l'université. C'est où tous les génies, tous les avocats, tous les activistes, tous les gens qui cherchent la liberté, tous les étudiants sont dedans. Et Evin, c'est nos cœurs, c'est notre cœur, comme Zahedan, comme Sanandaj. Et si un régime crame, qui brûle le cœur de son peuple, c'est fini.
Tout à fait. Alors, rappelons que quand même la Perse, comme je disais, est un pays très très ancien, avec une culture ancienne qui a beaucoup diffusé d'ailleurs sur le monde entier. Hein. On ne va pas s'attarder là, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Et que effectivement, cette prison où vont tous les intellectuels, ceux qui n'ont pas pu fuir, parce qu'il y a énormément d'intellectuels très idéalistes, enfin qui sont obligés de s'enfuir, qui n'ont pas le choix. Et je pense que brûler symboliquement, et en plus je rappellerai, sans être égoïste, que c'est là aussi qu'est emprisonné le couple qui, dans une propagande, a été accusé, évidemment, de trahison, d'espionnage, ou j'en sais rien. Voilà. Et je dirais aussi qu'en tant que Française, cette union, elle est aussi pour moi, non seulement en tant que femme, dans cette union de femmes, parce que j'ai eu à connaître votre pays et les richesses et les merveilles du pays, mais aussi les contraintes des femmes. Et puis, je finirai par dire, parce que là-bas, les Iraniens, très gentiment, avec beaucoup d'humour, parce qu'ils ont beaucoup d'humour, me disaient quelquefois « Ah ben oui, c'est vous les Français qui avez accueilli Khomeini !» Voilà, parce que je crois que là aussi, si, ça crée quand même un pont. C'est pas un pont glorieux, mais en même temps, c'est un pont aussi dans l'idée de l'humanité, quoi, hein, vraiment. Voilà, donc c'est bien que vous nous disiez tout ça. Il y a eu, on peut pas les citer tous les morts. Les avez cités l'autre jour, vous en avez cité un certain nombre à la manifestation hein, qui avait lieu sur la Comédie, mais c'est vraiment terrible. Et puis quand on connaît les histoires des familles, et puis moi dans ces manifestations, je vois régulièrement, souvent ce sont des femmes pleurer avec des larmes parce qu'on a la famille là-bas, et puis parce qu'on perd quelque chose de sa culture, de son identité, de cette richesse que vous avez. C'est en train de tout ça. Et puis je finirai par aussi dire une chose, c'est que moi j'avais été très très choquée que la Fondation des Déshérités qui avait été créée par Khomeini, en fait, est devenue une multinationale qui sert à enrichir les mollahs. Et que si peut-être ils ne veulent pas laisser le pouvoir, malheureusement, il y a aussi ce côté dont vous parliez de capitalisme, de profit, etc.
Oui, tout à fait.
Donc, je ne sais pas, peut-être que nous, on pourrait peut-être, parce que c'est intense, et peut-être pour se laisser un peu de temps après, on pourrait peut-être faire le premier morceau de musique que vous avez choisi, qui est un morceau qui est joué dans le monde entier. Hein, c'est viral, comme on dit chez nous. Alors, vous nous le présentez?
Oui, c'est Bella Ciao, en fait, comme une musique internationale pour la liberté.
Pour la liberté, voilà.
Pour tout le monde. Pareil, on a notre version iranienne aussi, et que ça, c'est intéressant parce que c'est des femmes qui l'ont chantée.
En premier, en Italie, en Italie.
Et en Iran aussi.
Et
je me souviens, quand j'avais 16 ans, pour la première fois, on a fait la version iranienne.
Voilà, donc Bella Ciao.
نفر از دور داره میخونه آسمون وحشت ما سفره تونه شرم از این کابوس شرم از این افسوس شرم از این رنج بیهوده پرده سر روی تالی از از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 یا همه با هم یا همه تنها روز نو یا شب بی فردا میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها خاک این گندم تو خیابونه شه یه خشم من و تو تشنه یه بارونه حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تازه این یه آغازه پنجره تو رو یا بازه همه با هم یا همه تنها و بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب ما که بیداریم تا فردا خرش زنجیر ظلم عالم گیر میشکنه با دستای ما.
Voilà, vous êtes toujours sur FM+, avec Marie-Claude pour les Échos de la Solidarité Internationale. Et j'ai toujours à mes côtés Niusha Morsardi, originaire de l'Iran, qui nous a entretenus et qui va continuer à nous entretenir sur les graves événements qui sont en train de se dérouler dans ce grand pays. Voilà, donc Niusha, peut-être qu'on n'avait pas effectivement évoqué tout ce qui peut se passer, toutes les horreurs actuellement qu'ont à vivre les gens, et comme on ne sait pas non plus ce qui se passe quand ils sont dans les prisons et tout ça, c'est tenu au secret. Mais bon, vous savez, vous avez des informations, en tout cas par le pays, et eux, ils savent aussi sur place souvent.
Mais oui, on essaye tout le temps en fait de savoir encore plus, parce que voilà, je vous ai dit, le régime il ment tout le temps, du coup on sait rien, et du coup il faut... Et il n'y a pas de médias, vous voyez, à qui on peut fier et de ne pas avoir doute. Mais bon, ce qu'on sait, il y avait à Evin, il y a voilà, de différentes parties où ils gardent plutôt, enfin il y en a deux, qu'ils gardent plutôt les manifestants arrêtés pendant ces jours-ci. Et ils s'appellent partie 7 et 8. Et ça a commencé en fait des dire des slogans et chants et tout ça dans ces deux parties. Dans la prison. Ils ont commencé par ça, mais on sait que le régime avait manigancé quelque chose, parce que juste deux jours avant cet événement, ils avaient demandé aux certains prisonniers pas politiques de ne pas rentrer. De ne pas rentrer.
Et du coup, donc c'était quelque chose qui était
ils avaient,
voilà,
ils avaient tout à fait décidé de le faire. Ils le font toujours. Ils ont fait avec le cinéma avant la révolution, Cinéma Rex à Abadan dans le sud. Ils ont massacré tous les gens qui étaient dans le cinéma, pareil. Et du coup, on a entendu ça. Et puis ils ont commencé à tirer des balles sur les prisonniers avec le chef de prison. Après, plus tard, il est rentré dans ses cellules. Et il tabassait les prisonniers déjà blessés. Et on les a amenés, on sait qu'il y a 40 enlevés, qu'on ne sait pas où on les a amenés. Il y a des gens qui disent qu'il y a 40 morts, il y a des gens qui disent qu'il y a 4 morts, on ne sait pas. Mais on sait qu'il y avait des morts, mais on n'est pas au courant.
On ne sait jamais combien.
On ne sait jamais, sauf une fois que tout est fini. Et même aussi, il y a une semaine, je pense, qu'il y avait, c'était le même événement dans une prison à Rasht, dans le nord d'Iran. Il s'appelle la prison de Rasht, Lokan. Pareil, mais puisque voilà, il y a plein de différents événements et des meurtres et des manifestations en même temps, avec les grèves nationales, des travailleurs du pétrole et tout ça... du coup, suivre tout ça et aller jusqu'au bout, c'est un petit peu impossible pour l'instant. Mais on sait qu'ils font des crimes. Si, un régime, même Hitler, il n'a pas tué les enfants à la maternelle. Il tire des balles dans les écoles maternelles, au collège et au lycée. Et du coup, on essaie tout le temps, en fait, de suivre. Mais bon, parfois...
Oui, d'ailleurs, c'est actuellement, enfin, ce qui est quand même, je crois, assez relativement nouveau, c'est la jeunesse, le fait que la jeunesse se soulève à ce point-là, et même ça va jusqu'aux lycéens, et je crois que ça, c'est relativement nouveau, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, on a l'impression que c'est vraiment tout l'avenir du pays qui est dans la rue, quoi, qui se soulève et qui prend vraiment conscience de cette énormité de ce régime qui vous soumet alors que vous venez aussi d'une civilisation, au contraire, novatrice, etc. Donc, vraiment, c'est grave, quoi. Et justement, l'autre jour... Alors, vous dites, oui, effectivement, pour les médias, vous avez un peu de mal. Et en même temps, je pense que les réseaux sociaux vous aident pas mal, puisque l'autre jour, pendant la manifestation, il y a quand même une de vos compatriotes qui est venue, justement, nous annoncer le massacre, en fait, ce qui avait eu lieu dans cette ville des jeunes. Et des lycéens, même. Ça vous aide pas mal quand même. Je ne sais pas quel réseau social c'est que vous avez surtout.
Normalement, on utilise Twitter. On a l'adresse d'association. Déjà, notre association sur Montpellier s'appelle Iran of the World. Et aussi, on a un compte sur Twitter, Facebook surtout. Pour donner des informations. Et il faut que les Montpelliérains et les Montpelliéraines surtout sachent que tous les samedis, on fait une manifestation à la place de la Comédie jusqu'au jour qu'on est libre. Jusqu'au jour qu'on est sûr et certain que c'est bon, ce régime est fini et on peut changer le pouvoir.
Voilà, alors nous avons le plaisir, malheureusement, ça va être trop bref, mais de recevoir donc Monsieur Ezan Hosseinzadeh, voilà. Bonjour monsieur, et je pense qu'on va vous laisser un peu la parole aussi, puisque vous êtes aussi, vous faites partie de cette association Iran of the World. Voilà, je vous laisse la parole.
Bonjour, merci de nous avoir accueillis. Je suis membre de l'association, et j'étais avocat en Iran, et ça fait 4 ans que je suis en France. Ce qu'on voit en Iran ces jours, c'est vraiment une violation grave de droits de l'homme. Moi, je le considère comme un crime contre l'humanité.
Tout à fait.
Parce qu'au vu de gravité de violation, et aussi, il y a une dimension de systématiquement. Parce que c'est systématiquement le gouvernement viole le droit de l'homme et le droit des femmes. Je veux juste vous annoncer quelques rapports. Par exemple, on a 10 avocats qui ont été arrêtés en Iran juste pour leur défense de droits de l'homme. 40 journalistes ont été arrêtés. 40.
C'est énorme.
Depuis 16 septembre, c'est-à-dire qu'on n'a pas la liberté d'expression. C'est nul en Iran. L'état de droit, on n'a pas l'état de droit. Donc, plus de 30 000 personnes ont été arrêtées. Plus de 200 personnes ont été tuées. Donc, on est en France et on essaie de contacter la société française. Et dire que on a besoin d'aide. Quel type d'aide ? On a besoin de la société française et aussi au niveau gouvernemental, faire agir contre cette violation des droits de l'homme. Parce que si le peuple iranien dans les rues, ils disent qu'on ne veut pas, on ne veut plus ce régime. Parce que ce régime commet le crime contre l'humanité. Ça fait 40 ans que les femmes sont sous l'oppression du régime. Donc, ça n'a aucun sens quand le peuple iranien, dans cette dimension, partout en Iran, ils disent qu'on ne veut plus ce régime. Et en même temps, la France et les pays européens reconnaissent diplomatiquement ce régime. Mm-hmm. Ça n'a aucun sens.
C'est l'éternel problème, ça, d'un traité
exactement. C'est-à-dire que la France,
très difficile avec le côté
la France,
politique.
En tant que leader politique d'Europe, il faut décider que il veut rester avec le peuple iranien ou le régime.
Tout à fait.
Il faut décider maintenant, parce que si la France veut par exemple. Le problème majeur de France avec la République islamique, c'est l'arme nucléaire. Mm-hmm. Leur problème d'arme nucléaire. Donc, le régime ne va pas s'arrêter là.
Ben, ils ont un moyen tellement énorme.
Ils ont caché. Ils ont un programme caché plusieurs fois et il a été prouvé aux pays occidentaux que le régime ne va pas s'arrêter. Donc, votre vrai allié. Ce sont le peuple iranien. Donc, c'est le peuple iranien qui soutient l'Ukraine, qu'il veut avoir une relation gagnant-gagnant avec l'Occident. Donc, il faut agir. Monsieur Macron a annoncé, par exemple, son soutien au peuple iranien, mais ce n'est pas suffisant.
Ça c'est moral, c'est intellectuel, philosophique, mais ce n'est pas réaliste dans les actes.
Oui, ce n'est pas pratique.
Tout à fait. Alors c'est bien parce que vous y faites chaque fois dans vos manifestations quand même, vous le revendiquez, vous demandez pour que les gens soient au courant en tout cas.
Oui, au moins
c'est l'intérêt
Français...
de ces émissions d'ailleurs, que les Français se rendent compte.
Oui, au moins ils peuvent envoyer des lettres. Déjà, il y a pas mal de mes amis qui l'ont fait, envoyer des lettres très officielles, très poliment, mais à Élysée pour demander d'arrêter cette relation. C'est honteux, vous voyez.
Il faudrait faire circuler une pétition.
Tout à fait.
Au niveau international,
en France.
Par votre association, par exemple, je pense. Je pense que c'est une façon quand même. Ça donne un peu un état des lieux de l'opinion, en tout cas, des gens et du peuple. Alors après, ils font ce qu'ils veulent, mais en attendant, on s'exprime.
Vous êtes en face d'un régime qui veut faire un génocide en Israël. Ils ont annoncé plusieurs fois qu'il veut commettre un autre génocide en Israël.
Supprimer ce
Vous voyez que le régime, maintenant, il a établi une apartheid sexuelle contre les femmes. Apartheid au niveau ethnique, contre plusieurs ethniques
des
en Iran.
Des Balouches,
donc, vous avez un régime qui viole le droit de l'homme, qui commet le crime contre l'humanité. Il a intention de faire un génocide dans l'avenir. Et quand même, vous continuez de reconnaître ce régime au niveau international. Donc, en tant qu'opposant de régime, on a besoin de passer cette étape. Première étape.
Oui, l'analyse.
Première étape. On essaye, en première étape, de couper toute la relation diplomatique du régime avec le monde démocratique. En deuxième temps, on essaye d'établir un état en exil avec une élection peut-être numérique pour établir une relation représentative entre le peuple iranien et cet état en exil. Donc, on a besoin de passer cette étape. Si l'Europe, si la France agit pas plus vite, cette répression va continuer. Parce que le régime est sûr que, oui, j'ai soutien diplomatique de la part de pays occidentaux.
Tout à fait.
Même les États-Unis, ils n'ont pas à agir suffisamment. Donc, dans le futur, si le régime va commettre un crime international. C'est la conséquence de cette silence. C'est un régime. Moi, je considère le régime de la République islamique comme le régime de nazi
allemand.
Parce qu'il veut commettre une autre génocide en Israël. Il a détruit 5 pays au Moyen-Orient avec ses axes. Hezbollah au Liban, Houthi en Yémen,
Et avec Bachar al-Assad en Syrie.
Taliban qui est en Afghanistan, et il a un fort soutien de la part de la République islamique. Donc, vous voyez des actes nocifs, destructifs de régime, et rester silencieux, c'est pas...
Tout à fait. Nous entendons, enfin moi je suis la voix du peuple, j'entends, mais je pense que je vous encourage vraiment à faire vraiment cette pétition avec tous les arguments que vous avez là. Je pense que c'est important parce que c'est important que les gens soient au courant, quoi.
Tout à fait.
Et c'est vrai que là, il y a une sensibilité, hein. Bon, on en parlait tout à l'heure, on a quand même, on avait accueilli Khomeini, enfin pas nous, mais bon.
Non, mais
oui.
Ça m'a été renvoyé de façon humoristique par beaucoup d'amis iraniens quand je suis allée en Iran, bon, enfin bref. Mais en attendant, voilà, je veux dire, on a quand même des liens aussi particulier aussi avec l'Iran, avec les droits de l'homme et avec les droits de l'homme aussi.
Il faut pas, oui, c'est exactement ça. Et il faut pas oublier qu'on n'a pas dans le monde connecté et dans la notion de mondialisation, on n'a pas un problème interne. Donc,
tout à fait.
Vous dites pas que c'est le problème d'Iran c'est très loin et c'est pas notre.
Tout à fait.
Vous soyez sûr que s'il y a une déstabilisation dans la région, il y aura 5 millions de réfugiés en France. Et dans cette situation... Et vous voyez que, par exemple, on a des pétroles et on a des gaz. Si on avait si on avait une bonne relation avec la France, on le présentait sans aucun problème.
On aura un meilleur monde, quand même. Vous voyez, à la fin, c'est le compte, voilà, le système capitaliste dont on a parlé. C'est ça, c'est le patriarcat qui bouffe tout.
Alors qu'ici, on est très conscient de tout ça.
Tout à fait.
Avec notre histoire à nous, française, on ne peut pas être d'accord avec ce qui se
tout
passe. Donc, effectivement,
tout
j'entends bien. Alors, si vous me permettez, quelques annonces et après, on finira, on conclura. Parce que malheureusement, le temps, la montre ne s'arrête pas. Donc, c'était pour vous rappeler. Alors, ce soir, il y a le comité MRAP de Montpellier qui vous invite à venir vous rassembler à 18h sur le pont Georges du Carély à Montpellier, pour honorer les victimes du 17 octobre 1961. C'est un massacre qui a eu lieu à Paris, où le FLN a invité les Français musulmans d'Algérie à manifester contre le couvre-feu dont ils étaient victimes. Voilà, cette décision raciste ne touchait que les musulmans. Et voilà, il y a eu quand même un massacre. Donc, commémoration ce soir à 18h sur le pont du Carély. Alors ensuite, vendredi 22, il y a une invitation à la découverte des journées africaines de la culture avec particulièrement la découverte du pays du Burkina Faso, qui est un pays, comme on sait sûrement, que je connais très très bien. Voilà, avec plein des témoignages, un éclairage sur la culture, de la musique, des contes et une dégustation payante de mets africains. Burkinabé particulièrement. Et puis, donc, le dimanche 23, donc, l'association Partage ton monde organise sa troisième opération zéro déchet. Voilà, avec un nettoyage qui se fait. Cette année, ce sera en simultané avec entre Montpellier et Niamey au Niger. Et donc, le départ, c'est à partir de 14h au bois de Montmort, où je crois qu'il y a fort à faire puisque c'est un bois. Voilà, donc vous êtes invités, si vous êtes partisans de la préservation de notre nature et de notre planète, à y aller. Et donc, je vais donner un peu le mot de la fin à chacun d'entre vous. Et puis, on a après, voilà. Donc, peut-être, qu'est-ce que vous voudriez dire à la fin?
Oui.
Hein, rien?
Oui, bien sûr.
Allez, oui, okay.
Oui, il y a deux jours, c'était la date d'assassinat de professeur Samuel Paty.
Oui, exactement. Ouais.
Donc, on voit que la cause... C'est le même.
C'est la même.
C'est l'islam politique.
Oui, tout à fait. Tout
vous voyez, c'est un problème mondial, un problème qui est sans frontières. C'est l'islam politique qui est soutenu par l'État islamique, comme l'Iran, qui ne respecte pas la séparation de mosquées et l'État. Donc, vous voyez que notre problème est commun.
Tout à fait.
Donc il faut partager ces soucis, il faut engager plus, il faut demander les... Moi je suis pas français. Si j'étais français, j'aurais à agir plus fort. Mais je demande aux Français de demander le représentatif, que ce soit au niveau gouvernemental, que ce soit au niveau Sénat et d'autres.
Oui, peut-être avec la Ligue des droits de l'homme, il faut qu'on voit, nous. Il faut
oui,
qu'on parte,
c'est juste demander aux hommes politiques de couper leurs relations diplomatiques oui. avec la République islamique.
Merci. Et moi, je remercie aussi et j'invite tous les Français de nous rejoindre tous les samedis à 16h voilà. à la place de la Comédie. Venez et soyez à côté de nous. Merci beaucoup.
Voilà, et je pense que Nyusha va nous annoncer la musique qui a été choisie avec beaucoup de voilà.
Oui, c'est
beaucoup d'implications.
Les musiques révolutionnaires pour nous, et il s'appelle Baroye, ça veut dire pour toutes les raisons qu'on a trouvées parmi toutes les années qu'on a passées en Iran pour notre pays, pour changer ce régime, pour voilà. la vie, pour la femme et pour la liberté.
D'accord, écoutez bien parce que ça nous concerne tous. Merci Stéphane à la technique d'avoir eu cette patience de désorganisation un petit peu. Voilà, et rendez-vous pour la prochaine émission donc des Échos de la solidarité internationale sur Radio FM+. Voilà.
برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیعصر و درختهای فرسوده برای پیروز و احتمال انقراضش برای سگهای بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوقفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای آینده برای بهشت اجباری برای نخبه های زندانی برای کودکان افغانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعارهای تو خالی برای آوار خونه های پوشالی برای احساس آرامش برای خورشید پس از شبای طولانی برای غرصای اعصاب و بیخوابی برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن زندگی آزادی برای آزادی I'm sorry.